Chers auditeurs, bienvenue dans le podcast. Comme vous le pouvez le voir, on est en mode duo aujourd'hui parce que ben là, c'est
surf,
ça.
Surf and turf.
Parce que c'est ça, il est arrivé, bon, ça bouge pas mal hein, sur la scène politique et la CAQ a finalement décidé de se départir de sa candidate vedette dans Côte-du-Sud, c'est ça? Mm-hmm. Et ça a laissé une circonscription libre. Et puis, Yann, après avoir flirté avec Québec solidaire, le Parti québécois, maintenant s'est laissé séduire par la CAQ. Donc, il ne peut pas être là parce qu'il prépare son investiture en tant que candidat dans Côte-du-Sud.
En fait, je pense que Yann se prépare aussi à faire des flip-flops. Fait que là, il est en train de scrubber son Facebook. Puis, il est en train de déliter toutes les vidéos qu'on a faites pour être sûr que ça ne sorte jamais. Parce que... Ou sinon, il fait comme Bernard Drainville puis il oublie qu'il y avait des stashs de choses qu'il avait dit dans le passé.
Moi, sérieusement, avant qu'on rentre, parce qu'aujourd'hui, on va être en formule Q&A pour les gens qui se demandent. Ça veut dire on fait ça, puisque je le dis parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux qui se sont joints sur Patreon, entre autres. Dans le fond, après un certain nombre de podcasts, on décide de ne pas prendre de sujet, puis on lance ça sur Patreon puis sur Facebook, les gens qui ont des questions. Fait que vous pouvez poser vos questions, puis là, ben, aujourd'hui, on va en prendre quelques-unes, puis on va essayer tant bien que mal d'y répondre. Parce que j'espère que ce n'était pas une question du genre « Ouais, j'ai tant d'argent dans un REER. » Qu'est-ce que je devrais faire? Parce que c'est pas moi qui vais y répondre vu qu'Yann n'est pas là. Fait que sinon, vous la reposerez lors du prochain Q&A. Ça, c'est si à ce moment-là, il ne se présente pas pour le Parti libéral.
Mais, effectivement.
parce que là, on les passe toutes. Éventuellement, on va arriver à Climat Québec aussi. Là.
Ah, mais non, mais Climat Québec, c'est moi ça.
OK, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'allais dire avant ça? Oui, c'est ça. Fait qu'on est en formule Q&A aujourd'hui, puis on va prendre quelques questions là-dessus. Mais non, ce que j'allais dire, c'est ça doit être plate, pareil, de dire que si tu te présentes en politique un jour, il faudrait idéalement qu'avant, tu n'aies eu aucune vie, aucune opinion, parce que tout ça va un jour se retourner contre toi. Puis moi, honnêtement, ça m'amuse un peu, là. Le genre de trolling du Parti québécois avec Bernard Drainville, que c'est comme genre Pascal Bérubé qui est comme « Bernard, ça te tente-tu de faire un débat sur la souveraineté du Québec? » Là, t'es comme « Il y a no shit qui va dire non, tu sais.
» Mais le pire, c'est que si j'étais les gens du Parti québécois, puisque alors, la seule chose qu'ils peuvent, ils n'iront pas chercher des votes au Parti conservateur ni au Parti libéral. Peuvent peut-être aller chercher quelques votes à Québec solidaire, mais j'en doute. Je pense qu'ils doivent taper sur la CAQ. Et dans ce cas-là, si j'étais eux, je préparerais des vidéos de Bernard Drainville qui dit une chose 2014, qui dit une autre chose 2022.
Pas très dur à trouver, soit dit en passant.
Puis là, t'es là, Bernard Drainville. Puis là, il y avait une ligne aux États-Unis, je me suis toujours rappelé d'une annonce électorale. « This man has more waffles than a house of pancakes.
» Mais c'est surtout qu'en plus, tu sais... Mettons, t'en as une des candidates qui a déjà été pour le PQ, mais elle était genre là dans le temps de Pauline Marois ou je sais pas trop. Elle n'a pas été là très longtemps. Fait que, tu sais, c'est tel que tel, mais Bernard Drainville a quand même voulu être chef du PQ. Tu sais, c'est quand même, dans le sens que c'est quand même pas rien. C'est quand même assez surprenant. Il faut être un petit peu naïf pour penser que quelqu'un qui a voulu être chef d'un parti, avec entre autres, là, il disait qu'il voulait créer une genre d'escouade là, de la souveraineté où il allait répondre à toutes les questions, produire des petits livrets. Pis tout. Et là, tout d'un coup, ah non, moi, j'ai toujours été nationaliste, là, vous ne me ferez pas dire le contraire. Puis là, ça tourne autour du pot, comme si c'était une maladie. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai.
Le plus, c'est que ça n'aurait pas été difficile de juste déclarer que. Non, écoutez, j'ai mis mes convictions souverainistes en veilleuse. Je pense pas que c'est réalisable. Je pense qu'il faut qu'on travaille à l'intérieur du cadre fédéral canadien pour améliorer la condition du Québec. Je pense pas qu'on devrait la mettre en veilleuse éternellement, mais tu pourrais dire quelque chose dans ces lignes-là. J'imagine que ça serait plus ou moins respectable. Mais en même temps, moi, ça me surprend pas, je veux dire. On oublie Belinda Stronach au Parti conservateur qui était candidate en 2004 pour la chefferie après la fusion des progressistes puis de l'Alliance. Mm-hmm. Ensuite, elle a fait défection chez les libéraux. Elle a été ministre brièvement. et elle avait considéré, elle avait sous-pesé la possibilité de se présenter à la chefferie du Parti libéral qui avait été éventuellement gagnée par Stéphane Dion. Donc, écoute, c'est toujours à prendre avec un grand grain de sel, ces affaires.
Ben, ouais, c'est ça. Mais moi, je me dis, des fois, j'hésite entre deux options là-dedans, puis elles sont peut-être pas mutuellement exclusives. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là ont des convictions tant que ça en papier mâché qui peuvent se modifier au fil des opportunités? Ou est-ce que les différences qu'on observe idéologiques entre les différents partis politiques sont beaucoup moins prononcées que ce qu'on voudrait le croire, puis qu'en réalité, tu sais, parce que des fois, je regarde ça, puis je me dis, OK, mettons, Dominique Anglade a quand même été présidente de la CAQ avant de se joindre au PLQ de Philippe Couillard, puis là, elle essaie de transformer le PLQ en un genre de PQ, pas de référendum, ou je sais pas trop, avec des positions genre... des positions vraiment à gauche, là, genre nationaliser des affaires, puis... Là, tu te dis, bon, OK, est-ce que c'est parce que les lignes sont beaucoup moins claires ou beaucoup moins foncées que peut-être on le dirait, ou c'est vraiment parce que, bon, ils se mettent le doigt dans les airs, ils voient de quel bord le vent tourne, puis ils décident d'y aller? Parce que, tu sais, si, mettons, si la coalition Avenir Québec avait été vraiment le parti que certains disaient, bon, parti plus de centre-droit, tu peux pas être la présidente de ce parti-là, après ça, faire défection, puis t'en aller dans le. Genre full social-démocrate. Là. Je comprends pas comment c'est possible. Fait que la seule possibilité, c'est ça. C'est que soit ces étiquettes-là ou ces idées-là sont beaucoup moins présentes qu'on le dit.
Ou... Ben, tu as une soif de pouvoir, absolument.
Ouais, puis tu sais, tout ça peut aller ensemble aussi.
Bon, moi, je vais y aller avec la soif de pouvoir. Je m'excuse, j'ai pas besoin d'une explication plus sophistiquée que ça. C'est tout à fait explicable.
Oui, mais en même temps, la soif de pouvoir, c'est dur d'expliquer comment tu peux faire un virage aussi peu stratégique électoralement.
Ça ne veut pas dire que la soif de pouvoir ne vient pas nécessairement avec une intelligence aguerrie.
Oh non, je sais bien, mais mettons, je me dis tout le temps, le Parti libéral, ça a quand même été une machine qui était au pouvoir pendant plusieurs décennies. Il doit bien avoir quelqu'un là-dedans qui a dit, écoute, je suis pas sûr que c'est rentable de s'allier, d'aller jouer dans la même clientèle que Québec solidaire. Oh non, mais ça va être ça pareil. Ah oh, ben OK. Mais comme tu dis, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Allez, on commence avec une question qui a été laissée, celle-là, sur le groupe privé sur Facebook. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, honnêtement. C'est vrai que je ne m'étais jamais arrêté à ça. Mais c'est Vic qui demande, est-ce que c'est un mythe que les procès judiciaires, par exemple, en divorce, sont majoritairement défavorables aux hommes? Tu sais, on entend ça souvent, si tu as des enfants, puis ils vont systématiquement donner la garde à la mère, ou tu sais, va-t'en pas en cours, c'est sûr que tu vas perdre contre la... C'est vrai que j'ai souvent entendu ça, puis je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, ça.
Je ne sais pas, mais je prends toujours les faits qui sont trop souvent répétés dans la sphère publique avec un grain de sel, parce que généralement, pour qu'une idée ça rentre sur la sphère publique et qu'elle soit partagée par toutes, c'est qu'elle doit être... absolument simple, mais vraiment d'une simplicité extrême pour que tout le monde comprenne, d'une part. D'autre part, elle doit faire abstraction de plusieurs nuances. Parce que si ça vient sur la place publique et tout le monde l'accepte, il n'y a personne qui en discute, c'est probablement vrai. Si ça vient sur la sphère publique, mais que c'est controversé, là, c'est probablement parce qu'il manque quelque chose. C'était rendu que c'était juste un chiffre facile à comprendre qui n'était pas nécessairement... qui manque une nuance. Donc, par exemple, je ne serais pas surpris que si on regardait en détail, peut-être que c'est perdu, mais c'est, disons, 5% des cas de divorce se terminent dans des disputes en cours. Puis dans le reste des cas, il y a une entente à l'amiable qui s'est produite. Donc, ce n'est pas aussi disproportionnellement désavantageux pour l'homme. Donc, on ne sait pas la proportion qui vient, là, je fais de l'hypothèse, mais on ne sait pas la proportion qui est réglée à l'amiable avant. Ça présuppose, parce que si ça s'en va, tu sais, qu'il y a une décision dans un process, parce que ça devait être contentieux pour commencer. Ça devait être probablement un divorce assez acrimonieux. Donc, dans ce cas-là, tu peux avoir une situation où le juge peut-être va préférer d'y aller avec la femme, mais qu'au final, quand tu regardes disons, l'ensemble des divorces, ces cas-là qui finissent en procès, c'est 7% du total, le reste, c'est des ententes à l'amiable, 50-50. Mmh. Dans ce cas-là, OK, d'accord, le fait pourrait être vrai, mais il pourrait être relativement insignifiant, surtout que je présume qu'il doit avoir des effets de sélection. Les hommes qui sont prêts à se battre contre leur ancienne conjointe au point d'aller en cours, probablement n'ont pas des comportements généralement super balancés
ouais, c'est ça.
Au final. Donc, tu sais, peut-être que on ne sait pas c'est quoi le détail. Donc, moi, je prendrais ça avec un gros grain de sel.
Ouais.
Cette règle-là, quand un fait, puis ça devrait être c'est une règle là, que j'ai en général. Quand c'est quelque chose que même Patrick Lagacé peut comprendre, puis qu'il va répéter, c'est peut-être pas faux en soi, mais ça va manquer un paquet de pièces de nuances qui te permettent de mettre ça dans son contexte, avec sa compréhension, puis de développer une vue plus globale de si c'est un problème ou non.
Ouais.
Donc, moi, je me prononce pas sur si c'est vrai ou non, mais je te dirais que je suis sceptique de la pertinence de ce
sujet. Il y a beaucoup de phrases un peu... beaucoup de clichés comme ça, des fois, qu'on entend au fil du temps. Puis moi, je suis tout le temps extrêmement sceptique de ces affaires-là. Là. Sérieusement, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils connaissaient quelqu'un ou que c'était arrivé dans leur famille, que leur grand-père ou leur arrière-grand-père s'est fait excommunier pour avoir refusé. Puis là, j'étais comme que la femme à l'époque ait d'autres enfants parce qu'elle avait failli mourir à l'accouchement du 13e. Et là, le curé a dit non. Il l'a pris. Il a donné un coup de pied dans le derrière. Puis après ça, il est excommunié de l'Église. Sérieusement, je pense que ça fait 40 personnes qui me racontent que c'est arrivé dans leur famille. Donc, je ne peux que considérer que c'est faux. Genre, c'est impossible qu'il y ait 40 scènes comme ça qui se soient produites. C'est peut-être arrivé une fois quelque part. Mais que, genre, autant de gens aient dans leur famille des scènes aussi précises que ça, avec des événements aussi particuliers que ça, on dirait que je peux pas le concevoir. Là. On dirait que ça ressemble plus à une légende urbaine que d'autres choses, ce truc-là.
Oui, je te dirais que j'ajouterais quelque chose. Je sais pas si des fois... en fait, comme historien économique, ça m'arrive fréquemment de devoir travailler avec des vieilles sources. Puis des fois, c'est des sources biographiques, dans le sens, par exemple, le recensement. Ou les registres de paroisse pour qu'on établisse, par exemple, donc disons que je veux mesurer la mobilité intergénérationnelle. Ton père était menuisier, c'est quoi ton métier? Pour savoir si tu as progressé socio-économiquement relativement à ton père, disons. Okay? Donc, tu veux essayer de mesurer ces choses-là. Mais tu peux te servir des registres de paroisse, par exemple, pour les mariages, pour les décès. Tu peux essayer de voir d'informations pour essayer de créer un portrait d'une personne. Mais souvent, ce qu'on réalise, c'est que les gens, entre ce que les registres de paroisse, les recensements disent, et ce que les gens se rappellent, ou ce qui a passé à travers l'histoire, comme les mythes et légendes d'une famille, il y a un divorce complet entre les deux. Donc, souvent, on va dire « Ah, lui, il est venu d'Irlande à telle époque parce qu'il fuyait la famine. » Après ça, tu réalises, par exemple, quelqu'un que tu cherches dans les dossiers où est-ce que tu peux faire, par exemple, les registres de passagers. Fait que, tu sais, si tu vas sur Family Search, par exemple, Family Search, d'ailleurs, les gens ne savent pas ça, mais ils partagent les données historiques qu'ils ont collectées. Family Search, c'est l'église de Latter-day Saints, c'est des Mormons qui font ça. Mais ils partagent avec des chercheurs les données pour qu'on puisse les utiliser pour des articles scientifiques. Mais tu sais, par exemple, ils vont avoir sur Family Search, tu vas avoir la liste des arrivants au port de Montréal en 1825 et j'exagère, là, mais tu vas avoir des listes de où ils sont arrivés au port. Puis ça, tu peux retrouver de quel port en Irlande, disons, ils sont partis. Puis là, tu peux matcher avec des recensements de d'autres endroits, ce qui est vraiment incroyable qu'on puisse faire ça. Puis là, tu réalises que finalement, la personne qui est venue d'Irlande à cause de la famine, c'est pas parce qu'il fuyait la famine, c'est parce qu'il avait assassiné quelqu'un ou il avait lancé une roche ou il s'enfuyait parce qu'il n'avait pas payé ses dettes. Puis lui, il avait menti à son nouveau partner quand il est arrivé... au Québec, puis le mensonge s'est persisté sur des générations. Donc, des fois, c'est des choses comme ça. L'effort de commémoration que les gens font est absolument est biaisé. Là. C'est pas que c'est inutile, mais c'est généralement biaisé. On va oublier l'oncle qui faisait partie des chemises bleues d'Adrien Arcan. On va oublier le grand-père qui... qui avait porté un bandeau sur son bras avec une croix gammée dans des activités. On va oublier l'autre grand-père qui a été en URSS puis qui a participé à des purges. Je sais pas, j'exagère, là, mais on va toujours oublier les personnages. Puis on va juste qui étaient moins savoureux de la famille. Ou on va oublier les mauvais aspects d'eux. Puis ça, on va remettre ça à l'essentiel. On va ramener ça à des mythes. Donc, sérieusement.
Ben c'est assez rare que les gens se vantent, mettons. Tu sais, quand tu écoutes les médias français, il y a souvent des gens là, que là, ça vient tout le temps sur le débat. Les autres sont, je peux comprendre, là, mais sont traumatisés par la période de l'occupation et c'est comprenable. Là. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des ancêtres résistants. Il était 50, oui. Mais en réalité, tout le monde, ses parents, ses grands-parents, tout le monde était résistant et personne n'avait de collabo dans sa famille.
Oui, bien écoute, garde, donner un exemple, mon grand-père était italien. Mon grand-père, lui, combattu les Anglais en Égypte, s'est fait capturer, a passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers en Irak. Il s'était pas battu fort parce que dès que les Anglais avaient avancé un petit peu trop, il avait donné son drapeau blanc. Mais en même temps, tu sais, mon grand-père il disait encore à 79 ans à quel point Mussolini était incroyable.
Ils ont été conditionnés là-dedans. Là.
Crois-moi, si t'étais. Tu vas avoir des grands-parents qui ont des choses, qui ont dit des choses atroces, puis on va l'oublier, ça. Puis je veux dire, c'était conséquent pour l'époque, mais dans la transmission intergénérationnelle d'informations, je trouve pas que c'est si pertinent que ça. À preuve, je suis libéral, ce qui est probablement l'idéologie que les fascistes haïssaient le plus. Donc, tu sais, ça a pas survécu très, très bien.
De toute façon, je veux dire, le péché se transmet pas par le sang. Là. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que tes ancêtres... Moi, c'est pour ça que j'adhère pas à aucun truc de culpabilisation collective, de « Ah, mais tel... » C'est parce que là, telle nation, ils ont fait ça à tel peuple. Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas engagé là-dedans parce que j'appartiens ici, parce que je suis né ici. Si mes parents, si ma mère m'avait accouché en voyage ailleurs... je serais pas tributaire de ce passé-là. Là. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec ce genre de discours-là. J'ai Antoine sur Patreon qui dit, peut-être que ça sera un sujet un peu complexe, il voudrait en faire un podcast, mais est-ce que Vincent a une idée pourquoi l'humanité a été pauvre si longtemps et que des années 1700 à aujourd'hui, le progrès économique a été gigantesque? C'est sûr que c'est une question...
C'est vaste. Ben écoute, il y a une réponse quand même relativement facile à faire. Ben, dans la facilité de la réponse, il y a plein de sous-questions qui doivent être posées. La réponse, c'est le rôle des institutions. Quand je donne mon cours d'histoire économique, ce que je montre, c'est que si tu omets les fluctuations, ce que tu vois, c'est que le revenu par personne de environ 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1700 est plus ou moins stable. Il y a des petites tendances, mais tu sais, c'est faible. C'est super faible, l'effet d'une année de plus. Mais quand tu réussis à regarder des données plus granulaires, quand tu es capable de regarder les mouvements, tu as ce qu'on appelle des efflorescences. Tu as des périodes dans lesquelles tu as des périodes de croissance qui sont soutenues et, par exemple, la Grèce antique, la République romaine, Qing China. Tu as des épisodes dans lesquels on trouve des efflorescences économiques. Et quand on essaie de les regarder, comment est-ce qu'elles ont émergé, comment est-ce qu'elles se sont terminées, le rôle des institutions est très important. Donc, par exemple, la raison que la Grèce antique était excessivement riche pour l'époque, parce qu'on oublie que c'était... Par exemple, tu n'auras pas de société avant 1800 qui ont des taux d'urbanisation en haut de 20% de la population.
Ouais.
En Grèce antique, c'était 35 à 40, si je ne me trompe pas, ce qui était exceptionnel. Donc, généralement, quand tu as une proportion de population urbaine qui est super élevée, c'est parce que tu as une agriculture très productive, que tu as d'autres secteurs d'économie qui sont assez productifs.
Parlait des cités-États, entre autres.
Exactement. Mais la raison que la Grèce était un endroit riche, malgré le fractionnement politique, c'est pas malgré, c'est à cause du fractionnement politique, toutes les cités-États se faisaient concurrence entre elles, avaient aussi des ensembles de ressources qui n'étaient pas facilement appropriables par un autre. Donc, tu sais, faire la conquête était coûteuse, mais faire l'échange avait une certaine valeur, mais en même temps, tu pouvais... Il y avait comme tout un système de check and balance, en fait, qui se faisait entre les cités-États. Et ce que ça fait, c'est que ça donnait une naissance à une efflorescence. Et la fin, par exemple, de la prospérité grecque, c'est quand les Romains conquièrent... En fait, quand Philippe le Grand conquiert, avec le Macédoine, conquiert l'entièreté de la Grèce antique et l'unifie sous son égide, c'est là que ça commence à décliner. Quand les Romains, ensuite, absorbent la Grèce dans l'Empire... C'est fini. C'est un exemple d'une fin parce que tu as enlevé le mécanisme institutionnel où est-ce que tu avais des États qui se checkaient entre eux. Donc, la protection des droits de propriété qui émergeait de manière implicite, parfois explicite, s'est érodée, s'est effritée. Et le résultat, c'est que la prospérité qui avait émergé sur plusieurs siècles a disparu. Tu regardes d'autres épisodes qui se sont terminés, c'est toujours dans des cas où est-ce que tu as une détérioration institutionnelle très claire. Et quand tu regardes pourquoi, par exemple, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est vraiment qu'ils ont un cadre institutionnel assez exceptionnellement intéressant dans lequel, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la Grande-Bretagne en particulier, tu as des check and balance qui existent, un cadre institutionnel qui est beaucoup plus libéral dans le sens économique, donc qui encourage l'activité économique. Mais là, après, le problème, c'est quand j'ai donné cette réponse-là, généralement, tous les historiens économiques vont dire « oui, mais ». Puis là, on va avoir des débats sur « c'est quoi exactement une bonne institution? » Est-ce que c'est un État, tu sais, qui est... Là, tu vas avoir, par exemple, des libertariens plus radicaux comme David Friedman parlerait de ça, par exemple, vont dire que non, c'est vraiment le fractionnement qui est important. Après ça, tu as des gens plus, disons, sociodémocrates qui parlent de « state capacity », un État qui était capable... De participer à l'activité économique. Tu as des gens un peu entre les deux. Moi, j'en suis un, ce qu'on appelle une sorte de state capacity as predation, où est-ce qu'on dit, bien, ce qui se passe, c'est que l'État qui émerge dans, par exemple, la fin de la période médiévale, les États qui apparaissent, c'est des États qui se font compétition entre eux, dans lesquels les dirigeants font profit de comment ils gèrent la polité dans laquelle ils sont en charge. Et ils ont aussi un avantage à faire une certaine dévolution de pouvoir. Donc là, tu as une sorte de mécanisme d'expérimentation institutionnelle qui se produit. Et cette expérimentation institutionnelle fait que des fois, tu as des États qui participent à l'activité économique en produisant des choses qui vraiment accélèrent la croissance économique. Dans d'autres cas, c'est un État plus minimaliste qui ne fait pas grand-chose à part, disons, des cours de justice. Puis là, ce que tu vois, c'est que des fois, tu réalises qu'il faut que tu aies un peu de recherche de rente pour que les institutions soient stables. Donc, tu sais, tu dois avoir, par exemple, tu sais, les ententes des gens qui pensent que la démocratie, ça émerge noblement par intérêt. Non, la plupart des démocraties sont émergées comme des batailles entre des groupes d'intérêt et la monarchie en soi, et une sorte de conflit entre les deux.
Ben oui, c'est clair. Qui voulait être calife à la place du calife, c'est beaucoup ça.
Oui, mais ça revient par contre, le point que personne ne va s'ostiner entre économistes et historiens économiques, c'est le rôle des institutions est vraiment crucial. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. Tu peux dire à quel point ça compte, mais il n'y a personne qui va dire, disons, tu prends la recette, c'est moins de 50% des ingrédients, il n'y a personne qui va dire ça.
Ouais, puis tu as toute la question après du progrès technologique là, qui rentre en ligne de compte là-dedans. Là, il y en a qui vont dire...
Même là, le progrès technologique, c'est pas comme si ça... Ça c'est quelque chose qui m'énerve. Le progrès technologique, c'est pas un truc qui est initiateur en soi. C'est une conséquence de quelque chose d'autre. Il existe, là, pensez au nombre de technologies qui existent dans l'univers dans lequel vous évoluez. Il y en a plein. Il y a plein de technologies. Il y a des technologies de moissonneuses-batteuses qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne les adopte pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Tu sais, l'ensemble de technologies disponibles, si moi, je veux créer une nouvelle technologie, mais aussi adopter n'importe laquelle de toutes celles qui sont disponibles, ça va dépendre de, par exemple, la protection des droits de propriété que j'ai. Si, disons, le roi demain matin peut venir de manière arbitraire saisir ma ferme, est-ce que je vais acheter des biens? Est-ce que je vais utiliser une technologie qui a des hauts coûts fixes, mais des bas coûts marginaux. Donc, ça prend plusieurs années avant que le rendement se génère, mais qu'il soit vraiment un rendement plus important dans le long terme, si le ROI pourrait arriver. Donc, il y a deux technologies. Je vais prendre celle qui a le plus bas coût fixe, même si elle est moins efficace dans le long terme que l'autre. Mm-hmm. L'innovation en soi, moi, je considère que c'est un résultat du cadre institutionnel plus que c'est une force initiatrice.
Oui, mais justement, c'est drôle que tu parles de ça parce que quand tu prends des cours justement d'histoire des sciences, tu lis un peu sur l'histoire des sciences, il y a, en général, c'est un point de vue que je donne en passant, là, c'est pas une science infuse là, parce qu'il y a des débats là-dessus. Là. Mais en général, à mon avis, les auteurs intéressants vont défaire l'espèce de mythe selon lequel l'histoire du monde se déroule par des genres de sauts qualitatifs tout le temps. T'sais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toute cette image-là, à un moment donné, il y a une pomme qui tombe sur la tête d'un tel puis il découvre la théorie de la gravitation. T'sais, c'est des clichés pour t'expliquer des affaires. Mais la réalité, puis ça, il y a un auteur qui est intéressant pour ça, puis après, je vais partager ce que tu viens de m'envoyer. Là. Il y a un auteur qui est intéressant pour ça, c'est un Français qui s'appelle Pierre Duhem. Il a écrit plusieurs livres, Duhem, D-U-H-E-M. Il y en a un qui s'appelle « Les origines de la statique », puis il y en a un autre qui s'appelle « Système du monde, histoire des doctrines scientifiques, de Platon à Copernic ». Puis il explique là-dedans, entre autres, que, par exemple, beaucoup de connaissances scientifiques qu'on attribue ou de connaissances techniques qu'on attribue comme ayant été découvertes à la Renaissance puis à l'époque de la Révolution industrielle, en réalité, c'était des savoirs qui existaient souvent même depuis le Moyen-Âge, depuis le tôt dans le Moyen-Âge. Mais comme tu dis, les conditions ou le système dans lequel on évoluait ne permettait pas d'utiliser ça à leur plein fonctionnement. Donc, c'était plus ou moins fonctionnel. Puis lui, tu sais, il s'oppose vraiment à l'idée de, tu sais, d'arriver puis de faire une lecture de l'histoire puis de dire, bon, ben 1769, Watt invente la machine à vapeur, donc là, tout change.
Ouais,
lui,
ça, c'est le hype. Ça, c'est la version école secondaire.
Ben oui, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, même dans l'histoire des sciences, ceux qui sont hyper... ils sont hyper connaissants de tout ça, mais qui voient encore l'histoire du monde selon ces genres de schèmes de pensée-là. Un moment donné, on change de paradigme et là, il se passe telle affaire. C'est comme s'il y a des switches un peu magiques dans l'histoire que là, maintenant, à partir de telle date, l'humanité passe de chasseur-cueilleur à l'agriculture.
Regarde, je vais donner l'exemple de chasseur-cueilleur est vraiment cool là, pour les auditeurs. Quand je donne le cours, parce que mon cours, c'est Global Economic History, quand je le donne au bac, au doctorat, je ne l'ai pas encore donné, mais il est plus complexe puis il devient plus technique. Mais au bac, c'est comme, voici, tu sais, comment tu peux utiliser l'analyse économique pour des questions historiques, mais on va le faire dans une narration de l'histoire un peu. Bien, la révolution néolithique, quand on passe du nomade au chasseur-cueilleur, du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, excuse-moi, ça s'est produit sur à peu près 6000 ans. Tu avais des gens qui évoluaient, en fait, tu regardes historiquement.
Ouais, c'est des systèmes mixtes. Tu es sur deux systèmes en même temps. En même temps que tu es sédentaire, tu fais en même temps de la chasse puis de la cueillette.
Exactement. Hein. Mais tu avais aussi des collectivités où est-ce que ce qui se passait. Par exemple, la grosse question, moi, je pense, en histoire économique, c'est pourquoi c'est pas la révolution néolithique qui nous a amené à la prospérité? Ça, c'est vraiment une question vraiment plus importante parce que c'est gigantesque. Là. Juste pour que les auditeurs comprennent, on peut passer plus de temps à cette question-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Quand je donne mon cours, je pointe que quand tu es un chasseur-cueilleur, l'espace que tu dois occuper pour acquérir des calories est égal à environ 200 acres par personne en moyenne parce qu'il faut que tu te promènes dans un espace assez gigantesque pour collecter. Pour te nourrir pour une année, tu as besoin d'équivalent de 200 acres. Quand tu fais de l'agriculture, tu as besoin d'à peu près 3 à 4 acres. Le ratio est gigantesque. Quand tu passes de l'agriculture, excuse-moi, chasseur-cueilleur à nomade, tu as besoin de beaucoup moins d'espace que tu dois occuper. Mais tu as aussi, parce que l'espace, tu dois te déplacer dans l'espace, mais tu perdais des calories en allant chercher ta bouffe à un autre endroit. Donc, tu faisais beaucoup de dépenses, tu avais beaucoup de temps mort, tu avais beaucoup de travail qui n'était pas utilisé. Mm-hmm. Mais l'agriculture, ça a permis de concentrer dans un plus petit endroit la collection de nutrition. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu des booms dans la stabilité des diètes, dans la quantité de calories qui étaient mangées en moyenne chaque jour. On voit plusieurs signes que la stabilité des diètes, la quantité de calories totale sur une année n'a pas changé tant que ça, mais au jour par jour, tu avais des calories assurées tous les jours. Donc, ça, c'est la première chose. Mais par contre, la question, c'est pourquoi c'est pas devenu riche? Bien, la chose qui s'est passée, puis ça, c'est un gars qui s'appelle James Scott qui a écrit « Against the Grain ». Je vais envoyer la référence, mais Scott, c'est le dernier des liens que je vais t'envoyer. Scott qui explique, puis il fait un peu, j'aime pas tant que ça comment il fait, parce que c'est un historien c'est un politologue, mais il n'est pas super bon avec la littérature économique, mais il n'est pas mauvais non plus. Ce qu'il montre, c'est que la première richesse que les États créent, ces richesses-là qui viennent avec l'agriculture, contrairement avec ce qui est nomade, c'est une richesse que tu ne peux pas déplacer. Donc, tu deviens beaucoup plus immobile, ce qui permet à un dirigeant de t'abuser plus facilement. C'est pour ça que les premiers États, quand tu les regardes, quand tu regardes leur évolution, c'est des États qui sont excessivement abusifs, qui utilisent l'esclavage. En fait, ils n'ont pas tant des systèmes de taxation qu'ils ont des systèmes d'extraction. Donc, ils vont capturer des gens, ils vont les faire travailler de force pour produire certains biens. Donc, tu as des armées de conscrits, tu as des contrôles qui sont faits. Tu n'as pas tant de la taxation pour que le dirigeant s'enrichisse, qu'il prenne l'argent des gens. Largement parce que les richesses dans ce temps-là n'étaient pas facilement monétisées. Il n'y avait pas beaucoup de monnaie en tant que telle. Donc, tu n'avais pas quelque chose qui était fongible, mais il était capable d'extraire de la richesse. Les endroits, après ça, ce qui s'était passé, c'est que ça a créé un autre effet. C'est où est-ce que les dirigeants étaient capables de s'installer pour extraire des gens? Il y avait des gens qui réalisaient qu'ils pouvaient devenir eux-mêmes des nomades qui allaient attaquer les agriculteurs locaux. Donc là, l'État avait sa fonction de protéger.
Mais c'est un peu ce que raconte Rothbard dans Anatomy of the State.
Oui, mais Rothbard ne fait pas super. Je le mettrais. Rothbard, il lit l'histoire de la manière dont il veut parce que ça lui donne l'histoire, l'interprétation libertarienne qu'il veut. Fait que je prends toujours ça avec un grain de sel, même si je pense qu'il n'y a pas 100% tort là-dessus. Mais en gros, tu as comme une sorte de catch-22 qui se passe. C'est que l'État est là pour t'abuser, mais il est aussi là pour te protéger. Mais c'est sa présence qui a créé l'autre personne qui t'attaque en plus. Donc, c'est un truc difficile. Mais l'autre problème aussi, c'est que quand tu as eu l'invention de l'agriculture, tu as eu une explosion de la population et tu ne pouvais plus revenir en arrière. Tu ne pouvais plus revenir entièrement à chasseur-cueilleur parce que tu ne pourrais pas soutenir ce niveau de population-là. Donc, tu avais un effet de cliquet. Dès que tu es passé à ce nouveau système-là, que tu as eu une explosion de la population, on ne réalise pas que la population mondiale a augmenté, je pense, par un facteur de 100. J'oublie le chiffre, là, mais tu as une explosion, puis tu ne pouvais plus revenir en arrière sans qu'il y ait beaucoup de monde qui meurt. Mmh. Donc, tu étais coincé. Tu étais coincé dans cette situation-là. Donc, c'est un peu un catch-22, mais ça revient encore au rôle des institutions. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un meilleur État? C'est quoi qui fait que l'État, tu sais, fait sa job fondamentale, mais qui n'en abuse pas, ou qui fait des services qui sont vraiment productifs? Ça, c'est vraiment le jeu d'équilibre. Fait que pour revenir à la question de Nick ou Tom, j'ai oublié.
Antoine, je pense.
Antoine, ça revient à c'est quoi une bonne institution, puis comment tu fais pour l'avoir?
Non, c'est vrai que le rôle des institutions, on le voit même quand vous regardez les différentes juridictions qu'il y a dans le monde, là, on le voit très bien. Là. C'est pas parce que les gens qui vivent là-bas sont moins bons ou plus. Il fait juste le meilleur exemple de ça, moi, je trouve, c'est la Corée. Regarde le Nord versus le Sud. C'est le même, génétiquement, ethnologiquement, culturellement. C'est quoi, c'est 1952, quelque chose de même, la séparation? Là, je vais de mémoire, là, c'est quelque chose de même.
J'ai envie de dire 48, le chiffre que j'ai en tête. Attends une minute. Separation of the Koreas. Je sais que la guerre, c'était 51 à 53. Partition de la Corée 1945. 10 août 1945 à 17 août 1945.
Ça veut dire que c'est quand elle a directement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça pour dire que c'est le même peuple, c'est les mêmes origines ethniques, c'est la même, à la base, les mêmes valeurs, les mêmes trucs culturels. Et il y a une place qui est un endroit de fine pointe de la technologie maintenant, aujourd'hui, avec des microprocesseurs, tout ce que vous voulez. Puis l'autre endroit qui est un des places les plus obscures au monde, là, en termes de droits humains. Puis c'est pas une question raciale, c'est pas une question culturelle, ce n'est qu'une question d'institutions et de systèmes corrompus.
Oui, puis ça, une autre affaire qui me tape ses nerfs, puis ça, on peut passer à la prochaine question. Mm-hmm. C'est tous les historiens font ça, ça m'écœure, comme t'as pas idée. Ils vont parler de mentalité pré-capitaliste ou de mentalité pré-industrielle, de mentalité paysanne. Puis là, il y a comme un break dans l'histoire parce que nos cerveaux changent, puis on devient différent. Ben,
c'est ce que je te disais tantôt, là. C'est les espèces de sauts qualitatifs de même. Puis ça, même les meilleurs auteurs peuvent faire ça, là.
J'haïs ça. La réalité, c'est que ce qui se passe à travers l'histoire, c'est que tu as toujours la même rationalité économique chez les gens. Tout ce qui change, c'est les contraintes dans qui font face. Les contraintes avec lesquelles ils doivent faire des choix. Mais l'être humain qui est un maximisateur, qui essaie d'améliorer son sort, ça a toujours été le cas. La question, c'est que les contraintes ont changé. Tu peux pas, il n'y a pas d'autre explication que ça. Il n'y a pas de... Parce que là, ce que ces gens-là font, c'est du hand-waving, c'est vraiment malhonnête. C'est comme de dire, ben, je ne suis pas capable d'expliquer ce changement de A à B, alors je vais dire que la personne elle-même a changé de A à B. Non, peut-être que tu devrais aller faire des efforts de regarder dans les sources, de voir c'est quoi les comportements qui ont changé, comment est-ce qu'ils ont changé, c'est quoi, est-ce qu'il y a un cadre interprétatif qui est capable d'expliquer ça. Puis c'est incroyable comment, écoute, le meilleur exemple, c'est les Québécois. On disait tout le temps que les Québécois sont nés pour un petit pain ou que les Québécois avaient des mentalités différentes des Anglo-Saxons. Moi, j'ai fait 3 articles sur le sujet qui ont tous été bien publiés. Dans les 3 articles, je montre, par exemple, que quand tu comparais l'efficacité des agriculteurs canadiens-français avec les agriculteurs canadiens-anglais, mais au Québec. Tu comparais les deux, il n'y avait pas de différence. Les Canadiens-Français étaient plus pauvres, mais pour chaque ressource qu'ils utilisaient, ils étaient également efficaces l'un à l'autre. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Après ça, j'ai étudié les pratiques qui étaient adoptées. Il n'y avait pas de différence dans l'adoption des pratiques. En fait, l'endroit où il y avait des différences, c'est quand tu avais des francophones qui observaient des anglophones. Et là, lorsque tu avais des groupes mixtes, eux étaient les plus innovateurs. Ils étaient plus innovateurs que les anglophones unilingues et que les francophones unilingues. Donc, lorsqu'ils étaient exposés à de nouvelles informations économiques, qu'ils découvraient quelque chose qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas laissé le 100$ traîner sur le trottoir. Ben, c'est ça. Ça, c'est la définition pas mal classique de la rationalité là. T'sais, de base, si tu veux, pour économiste, c'est si la personne voit un 100$ à terre et elle ne ramasse pas, elle est irrationnelle. Si elle voit un 100$ par terre, elle ramasse, c'est rationnel. Ouais, puis qu'il n'y a rien qui l'empêche.
Moi, je suis bien plus drastique que ça. Même 5$, tant qu'à moi, c'est irrationnel. À moins que tu aies un problème de dos qui justifie que tu évalues que ramasser le 5$ ne vaut pas la douleur subir.
Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu es juste en train de changer un paramètre de la conversation.
Oh oui, mais exemple, non, mais c'était une blague.
Non, mais par exemple, si c'était 1000$, est-ce que tu serais prêt à te faire mal au dos? 2000? Oui. La question, c'est est-ce que tu peux tester un contrefactuel où est-ce que la personne va agir d'une manière différente si tu changes le payoff? Puis cette espèce d'explication des historiens qui m'énerve, c'est vraiment d'essayer de tasser le passé. Tu peux dire que la culture a changé avec des changements économiques, puis qu'il peut avoir un nombre de la culture. Donc, par exemple, tu regardes en Allemagne, ça c'est mon collègue John Schultz qui travaille là-dessus, les endroits où la chrétienté est arrivée le plus tard en Allemagne, c'est les endroits où le parti nazi performait le mieux parce que culturellement, il n'y avait pas d'autres institutions qui faisaient contrebalancier organisationnel au parti nazi dans ces endroits-là. Donc, c'est une explication qui est proposée. Mais tu sais, ici, c'est une explication qui est de nature culturelle, mais elle a un cadre économique très clair. C'est que tu avais des gens qui ont des véhicules organisationnels que lorsqu'ils font des choix dans leur vivant, ils voient 2 types de véhicules. Ben, dans un endroit où la chrétienté est arrivée plus tard, tu avais des véhicules différents, tu avais des choix différents que dans un endroit où la chrétienté est arrivée beaucoup plus tôt. Donc, par exemple, c'est pour ça que tu remarques qu'en Bavière, où il y avait une forte proportion de catholiques, et non seulement c'est une église bien organisée, mais une église hiérarchisée, ce qui est différent des luthériens, des autres systèmes d'organisation. Les catholiques ont une structure beaucoup plus hiérarchique, ben, tu avais un contrebalancier très fort. Donc, tu regardes qu'en moyenne, les nazis faisaient moins bien dans les endroits catholiques de l'Allemagne.
Mussolini a eu à ramer beaucoup plus fort pour se débarrasser des religieux qu'Hitler. Tu as juste besoin d'avoir, il est obligé de lui donner des terrains puis de les acheter en lui donnant de la souveraineté sur des territoires.
Tout ça. Ben, reconnaissant le Vatican. Ben, oui. Ça, là, c'est un bon exemple. La rationalité est toujours présente. Tout ce qui change, c'est les paramètres de choix ou le nombre, l'espace de choix que les gens ont. Les gens qui veulent dire, oh, ils ont changé de mentalité. Avant, c'était la mentalité pré-capitaliste.
Oui. On passait du tribalisme au telle affaire. Là, t'es là, ouais.
Ça, là, c'est sérieux. C'est sérieusement l'équivalent de François Legault qui dit « Lève-toi et marche », là. C'est aussi pertinent.
On est dans le même gimmick un peu. Je prends une autre question de Charles. Ben, tu sais, dans les derniers podcasts, maintenant, on parlait de State Tricks. Puis je pense que la question fait un peu référence à ça. Il dit « Quelle serait une vision… » Là, il dit, lui, de droite économique, mais on comprend ce qu'il veut dire, là, pour le financement d'organismes communautaires. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est, mettons que tu es dans un monde, mettons, économiquement très libéral, puis que tu as des organismes qui viennent en aide aux gens défavorisés, puis tout ça, qui sont financés par le gouvernement. Comment ils se financent si tu enlèves les subventions à ce genre d'entreprise-là? Ben, moi, mon réflexe naturel serait de dire, ben, ça existait avant, tu sais... Les soupes populaires, les armées du salut, puis toutes ces affaires-là, ça n'a pas été inventé par le gouvernement. Je comprends que c'était des organismes religieux, puis là, si aujourd'hui tu pars from scratch, je ne suis pas sûr que tu as les ressources qui vont du jour au lendemain prendre la place que tu laisses vacante. Mais.
Cassons la question en deux. Premièrement, est-ce que le niveau de charité privé serait. Là, on va y aller dans le long terme. Là, on va oublier l'ajustement de court terme. Dans le long terme, est-ce qu'il serait le même que celui de l'État? Le lien que je viens de t'envoyer, c'est vers un livre qui s'appelle Growing Public, qui est de mon ami, co-auteur, mentor, Peter Lindert, que j'admire. Mais Peter est très social-démocrate et Peter est tellement bon comme économiste que lui, son livre m'a fait vraiment changer.
Fait que plusieurs... là, tu sais, il pardonne d'être social-démocrate, vu qu'il...
C'est parce qu'il est tellement un bon social-démocrate qu'il est capable d'utiliser des faits, puis il ne fait pas de raccourcis, puis c'est pas de la bullshit. Puis un de ses arguments, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'un État social, un État public, la redistribution soit capable, l'aide privée soit capable de collecter les mêmes montants. En fait, parce que tu as des économies d'échelle, généralement, au net, sont probablement capables, chaque dollar redistribué, tu as eu besoin de moins de ressources pour l'attirer. Puis ça, là, c'est vraiment... il est très convaincant là-dessus. Va dans les vieilles archives, regarde la proportion des dépenses, par exemple, dans ce qu'on appelait les almshouse, les poorhouse, la proportion des dépenses des établissements qui allaient à l'administration en soi versus l'État. L'État dépense une beaucoup petite partie des ressources qu'il collecte sur l'administration que des organismes caritatifs. Donc, au final, c'est clair que l'État est capable de collecter beaucoup plus. Par contre, il y a un inconvénient à l'État, c'est que l'État n'est pas capable de faire des services customisés. Tu as un one size fits all. Tu es coincé avec une taille unique. Tu n'as pas de service sur mesure. Tu ne peux pas utiliser des boucles de rétroaction aussi facilement. Donc, tu ne peux pas découvrir de l'information aussi facilement. Donc, tu peux collecter plus, mais tu es plus rigide et tu es plus uniforme. Et ça, c'est un coût. Le problème, c'est est-ce que ce coût-là est assez grand pour compenser l'alternative? Surtout que la redistribution que l'État peut faire peut financer, par exemple, l'éducation, des choses qui permettent à des gens au bas de l'échelle de grimper. Et là, quand tu pondères ces choses-là, ça devient vraiment une question empirique. Et c'est pas clair si au net, un État qui redistribue va vraiment être si mauvais que ça, avec beaucoup d'astérix, là, parce que je vais parler des astérix dans une seconde. Mais c'est pas clair si c'est nécessairement nocif. automatiquement nocif, je devrais dire. C'est pas automatiquement nocif. Mais, par contre, comment tu fais pour l'avoir, tu sais, efficace? Mais là, c'est là que le fédéralisme vient important. Que tu délègues les pouvoirs vers les plus petites communautés possibles pour que certains programmes soient gérés de manière locale ou est-ce que ça peut être plus flexible au niveau de cette communauté-là. Donc là, tu as le principe de subsidiarité puis de suppléance qui viennent en jeu. Donc, tu ne donnes pas à la province de Québec la gestion des autobus scolaires. C'est peut-être mieux de laisser ça aux villes ou même aux écoles elles-mêmes. Par contre, les hôpitaux pourraient être gérés aussi, par exemple, par des transferts aux villes ou des choses comme ça. Mmh. Là, c'est que j'essaie de sursimplifier. Mais par contre, tu ne laisses pas l'armée aux villes. Tu établis un peu une sorte de spectre. Puis là, ça devient plus important dans ce cadre-là. Après ça, il y a aussi la forme de comment l'État aide. Les transferts directs sont beaucoup moins nocifs que les transferts en nature.
Via des programmes. Ouais. Mais moi, ce que je trouve un peu révélateur souvent dans notre manière de... Là, je dis notre, mais tu comprends que c'est un nous général là, de ce qu'on observe souvent. Là. Pourquoi je parlais de State Tricks, c'était ça, c'est que souvent... On a tendance à penser qu'un État plus minimal, un État qui va se désengager de certaines sphères, on va tout le temps avoir tendance à aller voir d'abord du côté négatif de la chose. C'est-à-dire que là, on va dire « Ouais, mais là, si ça arrive, ça veut dire que les organismes communautaires, puis là, je ne dis pas que c'est ce que l'auditeur sous-entend, là, mais t'sais, on va avoir tendance à dire « Ouais, mais là, ces organismes-là qui viennent en aide à des gens défavorisés, ils n'auront plus de fonds, comment ils vont faire? » Mais on ne voit jamais que ça peut aussi vouloir dire simplifier énormément la vie à ces organismes-là. Un, d'émerger. Peut-être que c'est beaucoup plus simple pour eux légalement d'exister, d'avoir accès à de la propriété plus facilement parce que comme tu as un système plus souple là, tu sais, au niveau de l'habitation, du logement, ben c'est moins compliqué pour eux d'avoir accès à un local, c'est moins compliqué pour eux d'avoir accès à des bénévoles pour toutes sortes de raisons. Tu sais, il y a la taille de l'État, c'est pas juste l'argent qui est donné à ces organismes-là, c'est la quantité de paperasse et de règlements qu'il y a dans cet univers-là et qui peut compliquer quand même substantiellement la vie et l'existence de ce type d'organisme-là.
Oui, je te dirais que je suis d'accord avec ça. Puis j'ajouterais peut-être quelque chose aussi que ça peut affecter l'efficacité de des solutions privées. Mais il y a aussi quelque chose que les gens oublient vraiment de considérer. Il y a toujours cette espèce de tendance-là, puis ça ne contredit pas ce que tu dis, mais ça ajoute. Il y a cette présomption que ce que l'État fait, c'est ce que les gens veulent. Mm. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Quand tu regardes, par exemple, la composition de ce sur quoi l'État dépense, disons dans ce que tu pourrais appeler tous les organismes à but non lucratif, hormis les hôpitaux, par exemple, qui reçoivent, puis les garderies, disons. Donc là, tu pourrais inclure les musées, les sports, mais aussi l'aide aux indigents. Quand tu regardes ça sur quoi l'État dépense, ça ne veut pas dire que si tu laissais les gens ces sommes-là, eux-mêmes, de dépenser ces sommes-là, est-ce qu'ils dépenseraient sur ce sur quoi l'État dépense? Mais la réalité, c'est que tu regardes, par exemple, les politiciens sont beaucoup plus faciles à... par exemple, les gens... Ça c'était une... Je ne sais pas si c'est pertinent pour le Québec, mais pour la Grande-Bretagne, ça l'est. Les organisations artistiques en Grande-Bretagne, notamment le Royal Opera House, est très, très, très actif dans lobbyer le gouvernement pour des transferts, pour des aides pour le Royal Opera House, pour que, mais notamment, on leur donne des billets pour venir aux événements, pour les Black Tie Events.
Ben oui.
Puis, ils sont capables beaucoup plus de rediriger l'enveloppe budgétaire du gouvernement vers eux que vers des gens à revenus modiques ou des gens sans-abri qui ont besoin d'aide. Donc, peut-être que si, disons, tu arrêtais l'État dans les subventions au Québec, peut-être que l'Opéra de Montréal, disons, aurait moins de revenus au total, mais Moisson Montréal collecterait plus. Est-ce que c'est nécessairement mauvais? Je n'ai pas tendance à croire que c'est meilleur ou moins bien. C'est peut-être plus juste un reflet de ce qui est vraiment la préoccupation fondamentale des gens, qu'ils préfèrent aider des démunis au musée en soi ou à l'opéra, Est-ce que ça veut dire que ça irait dans cette direction-là? Je ne le sais pas. Mais il faut au moins se poser la question, est-ce que ce que l'État, ce sur quoi l'État dépense, c'est vraiment aussi bien que si tu laissais les gens le faire eux-mêmes? Puis cette question-là est rarement posée. Puis je pense qu'elle est pertinente à poser. Je pense que si, mettons, les gens ne voulaient pas dépenser sur aider les indigents avec l'État, si, mettons, tu es obligé d'avoir l'État qui fait ça, ben je serais un peu fâché d'arrêter les aides. Mais je suis convaincu que tu aurais des mécanismes, si l'État s'enlevait, mais qui laissait aux gens aussi le revenu au complet, les gens probablement aideraient davantage et probablement mieux que ce que l'État réussit à faire.
Oui, puis tu sais, je sais pas, mais tu peux avoir toutes sortes de dispositifs là, sur quelqu'un qui veut dédier sa vie à ce genre de cause-là, ben il peut avoir, tu sais, comment je pourrais dire ça, il peut avoir, on n'est pas obligé d'y pourrir la vie non plus d'un point de vue fiscal, tu sais, je veux dire.
Non.
L'État aussi, Mané, ça peut être un genre de facilitateur dans l'histoire. Là. Entre autres, si tu sais, il y a une vieille phrase que ma grand-mère disait souvent, « Si t'aides pas, au moins nuis pas ». Je trouve que c'est quand même il y a des petites phrases des fois de sagesse populaire comme ça que nos ancêtres nous disaient, c'est pas toujours faux là,
ouais, mais il y a aussi un autre danger qui est vraiment important avec la charité de l'État, c'est pas que c'est... là il y a des gens qui peuvent être de mauvaise foi qui vont essayer de mal interpréter ce que je vais dire puis si ça sort tout croche, essayez d'y aller de bonne foi là. Ce sur quoi voyons, quand l'État décide d'aider un groupe de personnes, c'est probablement le groupe de personnes qui a le plus de poids dans la décision de l'État de le faire. Donc, la capacité de l'État de redistribuer peut devenir, à toute fin pratique, quelque chose de négatif pour, disons, la liberté humaine dans le long cours. Si ce que ça fait, c'est que ça fait une course aux subventions ou une course aux aides, puis là, tu en viens à essayer de plus en plus de taxer une minorité qui est de plus en plus loin pour justement collecter des revenus. Puis ça, c'est James Buchanan en parlait avec les trois fonctions de l'État. Tu as l'État protecteur, tu as l'État producteur, puis tu as l'État redistributeur / prédateur. Quand tu as l'État producteur, c'est vraiment super parce que là, c'est là que l'État taxe un petit peu, mais là, il finance, par exemple, des gens pour qu'ils aillent à l'université. Ça augmente la productivité inhérente de l'économie au-delà de juste protéger les droits naturels des gens. Le problème, c'est que dès que l'État commence à faire des services de production, il court le risque d'embarquer dans la section redistribution où là, tu te sers des pouvoirs qui sont créés pour prendre à une minorité, pour prendre à une majorité puis te financer toi, ou prendre à une minorité, puis une majorité puis te financer toi, une minorité, peu importe dans quelle direction ça va, tu peux avoir des abus qui émergent. Ouais. Et là, tu as une détérioration du cadre institutionnel, puis à long terme, tu te retrouves avec une société plus pauvre. C'est pour ça que quand je dis les règles du jeu, là, ce que tu veux, c'est créer des balises, des contraintes, des incitations qui font que tu peux pas, au minimum, là, tu peux pas quitter la deuxième catégorie. Tu peux te déplacer entre les deux premières, l'État producteur puis l'État protecteur, mais tu as quelque chose qui devrait t'empêcher toujours de sortir de l'autre. Le problème, c'est que c'est vraiment difficile d'établir ce périmètre-là pour empêcher la sortie de cette catégorie-là.
Non, c'est clair. Francis qui demande sur Patreon, pourquoi autant de gens confondent corporatisme ou crony capitalism et capitalisme? Ça, c'est...
Ah, je ne sais pas, c'est une maudite
question. Ça, c'est vrai que... Parce que j'ai tellement eu souvent dans ma vie des discussions avec des gens qui sont plus de gauche, là, puis à chaque fois qu'ils me parlent de ce qu'eux combattent, je suis comme « OK, mais c'est parce qu'on parle de la même affaire. Moi aussi, j'aime pas ça, ce dont tu parles. Mais c'est parce que ce dont tu parles, c'est pas ce que je prône pas en tout. »
Oui, bien, j'ai déjà eu la même conversation avec des gens. « Hé, là, t'as-tu vu, l'État, il est dans le lit avec Bombardier. OK?
I know.
Est-ce que tu veux que je défende Bombardier? C'est ça que tu t'attends à ce que je fasse? Parce que je suis pas un grand fan, là. En fait, je suis pas du tout fan qu'il fasse ça. Puis généralement... Il y a cette confusion-là, mais je ne sais pas d'où est l'origine. Honnêtement, je te dirais que I'm stumped. I have no answer to that.
Ben moi, je pense qu'il y a une forme de... Je pense que c'est ça qui me dérange un peu avec les gens qui sont plus à gauche sur ces questions-là, c'est que eux, ils ont une vision un peu naïve, puis je le dis pas méchamment, là, mais ils ont une vision un peu naïve qui consiste à dire, ça, tu le vois souvent là, avec des slogans du genre « ça prend du courage », « de la volonté de changement », c'est-à-dire qu'eux, dans leur tête, ils pensent que, moi, dans mon esprit, là, c'est « starve the beast ». T'sais, si tu n'affames pas la bête un peu, là, la bête a tendance à spreader ses trucs partout. Là. Fait que tout le monde, plus tu t'envoies de l'argent dans le Léviathan, plus il y a des gens qui vont tourner autour du Léviathan en espérant des retours d'ascenseur. Yep. Fait que le seul moyen de régler ça, là, c'est de lui laisser ce qui est absolument nécessaire et tout ce qui n'est pas nécessaire. Autrement dit, si tu enlèves le chéquier à Fitzgibbon, il ne peut plus faire des chèques à tout le monde. Je prends une image imagée pour que les gens comprennent ce que je veux dire.
Mais tu as fait une grosse erreur. Fitz qui donne.
Sauf que eux, ce qu'ils disent, c'est pas ça. Eux, ils disent non, le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait mettre une meilleure personne à la place de Fitz qui donne. Comme ça, eux pourraient faire des chèques juste aux causes que moi, je trouve nobles. Donc, plus de chèques à Bombardier, mais des chèques à des organismes communautaires, des artistes qui ont besoin d'aide. Puis moi, je me dis tout le temps, oui, mais vous comprenez pas c'est quoi la mécanique de l'État, les incitatifs, tout ce qui rentre en jeu là-dedans. Tu peux pas baser la fonctionnalité du système sur la bonne volonté, les bonnes valeurs, un être humain de qualité. Parce que c'est souvent sur ça qu'ils vont axer, c'est-à-dire, nous, on a des bonnes valeurs, nous, on va changer les choses. Mais si vous ne changez pas les règles du jeu, vous ne changerez jamais les choses. Parce que inévitablement, à un moment donné, vous allez vous ramasser à la place de l'autre, vous allez avoir des pressions de tel lobby, vous allez avoir des gens qui vont exercer une certaine influence, faire du chantage. Puis un jour, vous savez-vous quoi? Peut-être que ça va être plus long que les autres, mais vous allez flancher aussi.
Mais écoute, il y a cette espèce de tendance-là de plusieurs personnes de penser que ce qui est fondamentalement immoral désire être immoral.
Ben, c'est ça. Ils sont volontairement méchants, eux. Là. Mais non,
oui, mais que leur identité est liée à cette méchanceté-là et qu'ils en sont conscients. La réalité, c'est que, prendre n'importe quel roman, n'importe quelle œuvre de. Puis, en fait, la personne qui en parle le mieux, c'est Solzhenitsyn dans l'archipel des Goulags. Il y a un passage. Ah, quand même. Moi, ça m'avait affecté. Puis, il y a un passage dans lequel Solzhenitsyn dit tu penses aux grands vilains dans les grandes histoires. Et on pense qu'ils vivent vraiment pour que la méchanceté est une finalité en soi et que c'est l'essence même de leur personne. La réalité, c'est que les personnes ayant commis les plus grandes atrocités se voyaient elles-mêmes comme des personnes vertueuses. Oui. De la même manière que, disons, je ne sais pas, l'exemple qui me vient en tête, quand Thanos, dans les dernières séries de Marvel, détruit la moitié de l'univers. À la fin, sa fille, il demande « Did you do it? » Il dit « Yes. What did it cost? » Puis il dit « Everything. » Puis dans le sens que tu vois que ça l'a épuisé, que c'était important, mais que lui, il voit qu'il a fait quelque chose de moral. Mais il a tué la moitié de l'univers à toute fin pratique. Là. C'est ça qu'il essayait de faire.
C'est cette naïveté-là qui est dangereuse, moi, je trouve, parce que eux voient leurs adversaires ou leurs adversaires présumés. Ils se disent, mais si c'était moi, jamais j'aurais fait ça, donner une subvention à une compagnie qui est déjà milliardaire ou whatever. Mais si c'était toi, t'aurais peut-être pas fait ça, mais t'aurais fait autre chose qui n'est pas plus morale aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est là qu'est le problème là-dedans. Et c'est pour ça que si ta vision de. Tu sais, pour revenir un peu à la question, c'est que eux, en réalité, ceux qui confondent, d'après moi, le corporatisme, le crony capitalism avec un système comme nous autres, on pourrait plus prôner, c'est que dans leur tête, les gens qui vont au sommet qui sont en charge des décisions puis qui sont élus ou qui vont au gouvernement, dans leur tête, si les choses sont comme ça, c'est juste qu'ils sont mauvais. Puis qu'ils ont une mauvaise philosophie politique, ils ont des mauvaises orientations. Mais à un moment donné, tu as un genre de reality check là-dedans. Une des choses qui m'avait marqué là-dessus, c'est Lucien Bouchard qui racontait dans une entrevue à un moment donné que quand il était premier ministre, il y avait chaque jour une pile de lettres. À l'époque, il n'y avait pas de courriel, mais il y avait une pile de lettres là, d'à peu près un pied. Là. Puis là, sa secrétaire, elle mettait ça sur le coin de son bureau. Et là, il ouvre la première lettre, une association d'un tel avec un texte ultra larmoyant, des enfants handicapés, telle autre affaire. Prends la lettre, mets sur le coin du bureau, ouvre la deuxième lettre. Telle autre industrie qui se plaint qu'il y a de la concurrence. Et là, finalement, toutes ces lettres-là sont pourquoi? Sont pour lui demander de l'argent. Et là, toi, tu es la personne.
Ou des privilèges.
Oui, des privilèges. Et là, toi, tu es la personne qui doit dire. Parce qu'il parlait de finalement de l'équilibre budgétaire puis de tout ce qui s'est passé au lendemain du milieu des années 90. Et là, il était comme, pour de vrai, si tu es une personne de cœur, puis tu t'en tiens juste à ça, tu vas donner tout à tout le monde. C'est chaque jour, ce qu'on te demande, c'est sors le chéquier, donne-moi de l'argent. Puis il dit individuellement, chacune des causes te paraît noble. Mais si tu prends ça d'un point de vue global, puis tu regardes ça après, tu vas dire, hey, Bouchard, ça, c'est le gars qui pitchait de l'argent partout, puis il nous a tellement mis dans la merde, blablabla. Bla, bla. Mais individuellement, lui, il aurait été persuadé de faire le bien. Là. Regarde, c'est toutes des bonnes causes, des causes nobles. Ouais. Comment je fais pour aller dire à une mère qui a des enfants trisomiques, mettons, que je n'y viendrai pas en aide via un programme, tout. Mais c'est ça, ce qu'on parlait de plus il y a d'argent dans la cagnotte, plus il y a de gens qui vont tourner autour pour vouloir en avoir. Puis, savez-vous quoi? Quand les politiciens donnent des subventions, puis nous autres, on est comme, hey boy! C'est donc bien douteux, cette affaire-là. Ben, s'il y a peut-être même qu'eux autres, ils croient à leur affaire. Là. Ouais, mais là, ça nous a été présenté. C'est tellement un beau projet. Vous comprenez pas. Ça va créer plein d'emplois. Puis bla. Moi, je pense pas qu'ils font ça en étant des mauvaises personnes. Là. Ils sont persuadés, eux autres, qu'en faisant ça, ils font le bien. Là. C'est ça qui est le pire.
Oui, oui. Ben, écoute, je te dirais que je pense qu'en général, les gens qui sont en politique, en moyenne, je pense que c'est des êtres humains qui sont beaucoup moins plaisants que les autres êtres humains. Est-ce que je pense qu'ils sont forcément immoral ou evil, comme on dirait en anglais. Là. Non, je pense pas. Je pense par contre que pour réussir en politique, tu as besoin de traits de personnalité qui ne sont pas ceux que tu as besoin pour réussir dans une relation personnelle ou dans une relation professionnelle. Donc, c'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose qui est très. Je pense pas que c'est des gens que j'admire beaucoup. Donc, je pense que je t'empêcherais un peu ce que tu as dit. Là. Je pense pas que c'est nécessairement des bonnes personnes.
Je dis pas que c'est des bonnes personnes, mais je veux dire, ils sont pas evil comme on pense qu'ils sont. Par définition, ce sont des gens qui sont un peu narcissiques parce que évidemment, il y a une dose de narcissisme. Je suis pas mal sûr que, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Mais à mon avis, si tu mesures.
On en a parlé il y a deux semaines, que les gens qui sont dans des situations de pouvoir. Neurologiquement, en fait, la chimie de leur cerveau les rend, si tu es dans des positions de pouvoir pendant longtemps, j'ai oublié c'était quoi exactement le détail, mais ta capacité à empathir avec d'autres êtres humains qui souffrent diminue beaucoup, la capacité de comprendre leur situation est beaucoup plus inférieure, tu n'es pas capable de relationner avec d'autres êtres humains parce que tu es habitué à avoir une relation dans ta tête qui est une relation hiérarchique.
Parce que, tu sais, si, mettons, là, vous êtes, puis il y a beaucoup de gens comme ça, là, je pense pas d'être à part tant que ça des autres, là, mais si vous êtes une personne comme moi, là, que quand vous rentrez quelque part dans un lieu et tout d'un coup, vous devenez le sujet de l'attention parce que ça fait longtemps que les gens vous ont pas vu ou que c'est votre anniversaire ou whatever, si vous ressentez un malaise quand ça se passe, ben vous n'êtes pas un politicien à l'intérieur de vous. Non. Si vous rentrez quelque part et vous devenez le sujet de l'attention et vous ressentez un profond sentiment de valorisation, ben il y a des bonnes chances que peut-être vous êtes doué pour ce type de milieu-là.
Oui, ben une variante à ça, c'est est-ce que vous répondez mieux aux insultes qu'aux compliments? Moi, je réponds beaucoup mieux. Je ne suis pas capable de prendre des compliments, mais zéro. Mais par contre, si tu m'envoies une insulte, je sais très bien comment répondre. Psychologiquement, je suis capable de répondre à une insulte, mais un compliment, c'est vraiment très difficile pour moi de les accepter. Fait que peut-être que ce serait une variante de ça. Si t'es pas capable de recevoir un compliment, mais t'es capable de répondre à une insulte, t'es pas un politicien. Naturellement, le politicien aime le compliment, aime se faire dire que c'est lui qui a sauvé la société. Sans lui, on serait tous morts de faim pendant les premiers jours de la pandémie. Parce qu'on allait manquer de nourriture, on allait manquer de nourriture. Là, c'est mon manque de générosité. Mais ça revient par contre à ce qu'on dit tout le temps. Là, je ferme la parenthèse de la petite joke que je faisais. Ça revient tout le temps à ce qu'on dit ici. C'est pas important, c'est qui le joueur. Ce qui compte, c'est les règles. C'est les règles du jeu, c'est pas les joueurs. Parce que ce que je veux, c'est un système qui fait en sorte que les règles font que même la personne avec les traits de personnalité les plus atroces, la personne la plus corruptible par l'accès au pouvoir, la personne qui est la plus malsaine psychologiquement, la plus narcissique, la plus prête à utiliser le pouvoir qu'elle exerce pour s'enrichir personnellement, pour enrichir... Vraiment, la personne que tu pourrais juger la plus proche du « pure evil ». Tu veux un système qui fait en sorte que les incitations l'empêchent de succomber, ça se dit en français?
Oui.
De succomber à ses tentations naturelles. Ou mieux que ça, c'est que tu dis, c'est que tu essaies d'utiliser un système d'incitation qui fait que ça appelle, j'aime mieux l'expression en anglais qu'en français, « the better angels of our nature ».
Oui, c'est carrément ça, là. Les gens, s'ils veulent nous suivre sur Patreon, vous pouvez le faire. On va continuer à répondre à quelques autres questions dans une partie bonus. Habituellement, j'essaie de garder les plus...
saucés.
Les plus saucés pour cette partie-là. Fait que rejoignez-nous si ça vous intéresse.